Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous venons à toi qui nous a convoqués, et c'est vrai que tu nous as mis à part, et nous as mis à part pour chanter, pour te louer et t'adorer. Merci Seigneur d'avoir produit dans nos cœurs ce dont nous avons besoin ce matin. Tu l'as dit, tu prenais soin de tes enfants de l'Église, et tu l'as fait croître par ta parole, Seigneur, par ton esprit. Alors Seigneur, merci de nous visiter ce matin, de nous renouveler notre foi en toi, Seigneur, de nous enrichir de toi. Merci, Seigneur, donc, pour ces instants. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen.
Nous venons de chanter la grandeur de la gloire de Dieu. Alors nous verrons ça aussi un peu, la grandeur du Père et la grandeur du Fils. On va auparavant prendre le texte de 1 Corinthiens 11, si vous voulez bien. 1 Corinthiens 11, verset 23. Du verset 23 au verset 29. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Comme chaque dimanche, nous voulons obéir à la parole et passer quelques instants pour nous souvenir de ce qu'on est et nous sommes des chrétiens. Et dans chrétiens, bien sûr, il y a Christ. Nous proclamons par ce repas que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité et il a créé une nouvelle alliance qui est une alliance parfaite et éternelle. Par ce repas, nous cultivons, par ce moment, nous cultivons le souvenir du Christ Jésus, sa personne, son œuvre, ses souffrances, son sacrifice, nous le faisons par le repas, comme il l'a demandé. Faites ceci en mémoire de moi. Cela reste un geste simple pour chacun, mais d'une extrême importance pour celui qui en a donné l'ordre, le Père. Et bien sûr aussi pour le Fils, qui est lui-même le corps rompu et qui a laissé couler le sang pour nous. Alors, dans ces instants précieux, nous voulons dire, nous voulons être unis, nous voulons être ensemble, et nous voulons savoir que l'Église réjouit le ciel par ce moment, si nous le faisons, bien sûr, de tout notre cœur et comme il le faut. Il est aussi d'une extrême importance d'être prêt personnellement à faire ces gestes, car nous sommes réunis avec lui, mais aussi devant lui et devant le Seigneur. Nous avons à ne pas nous corrompre en prenant ce repas. Alors que faut-il alors ? Être convaincu que nous sommes de ceux qui méritaient la mort éternelle, ou plutôt l'éternité de souffrance, et que nous étions donc comme les autres par le péché que nous avions. Que nous faut-il encore ? Être convaincu que par son sacrifice, par le sacrifice de Jésus, nous avons le seul moyen d'être en règle avec le Créateur, de n'avoir plus la condamnation ni de clé de Damoclès au-dessus de la tête, car Jésus, le Fils de Dieu, a ôté cette menace en se chargeant de notre culpabilité. Il nous faut aussi croire par la parole, avoir la foi en la parole, que Dieu pardonne celui qui s'approche de lui pour reconnaître ses péchés, y compris ceux qui peuvent peser à cet instant, puisque je parlais de ce moment, et il est important que pour ce moment, il n'y ait pas de péché qui nous empêche de remercier le Seigneur et de prendre ce repas. Donc, nous pouvons nous approcher de lui et libérer nos consciences maintenant. Que faut-il encore ? S'engager à vivre de Christ, c'est-à-dire être mort avec lui et vivant de sa vie. Nous devons avoir cette volonté en prenant ce repas. Ainsi, nous sommes prêts, invités, à prendre ce repas en souvenir de l'amour de Dieu, du sacrifice que Jésus a enduré, dans la soumission complète. On va, pour nous aider à nous souvenir de Jésus, de sa soumission, de ses souffrances, mais aussi de sa gloire perdue et retrouvée, on va prendre un texte dans Jean au chapitre 12. Jean 12, versets 20 à 28. Jean 12, verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Donc on va rester surtout sur les deux derniers versets qu'on a lus, le verset 27 et le verset 28. Le Seigneur va mettre fin à son ministère public. Nous sommes 5 jours avant la Pâque. Il annonce son heure fatidique. L'heure est venue, dit-il. Pour la dernière fois en présence de la foule, il est saisi d'une profonde émotion. Personnellement, je n'avais jamais remarqué ce passage qui avait tant de similitudes avec les angoisses et les supplications de Gethsémané qu'on a l'habitude de lire aussi. S'adressant à son père dans le trouble de son âme, il se pose une question. Que dirais-je ? Comment pouvait-il exprimer par des paroles ce qui l'étreint ? Que dirais-je ? Et je pensais en lisant ça à ce que nous a dit Michel vendredi soir sur l'inquiétude. Alors là, on est au summum de l'inquiétude. Là. On y voit dans cette prière ce cri, mais on y voit aussi la sensibilité de son âme et la perfection de son humanité. C'est-à-dire qu'il peut ressentir ce que nous ressentons aussi peut-être des fois. Père, délivre-moi de cette heure ou sauve-moi de cette heure. C'est l'anticipation du combat de Gethsémané. Mais on y voit aussi, immédiatement, qu'il se reprend. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. C'est l'énoncé de la parfaite obéissance de Jésus, comme elle l'a dit en entrant dans ce monde. Je vous lirai Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le livre de vie pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et une fois qu'il a remis cela devant ses yeux, qu'il a remis sa mission, ce n'était pas pour se glorifier lui-même d'avoir repris cette position, mais c'est de réaffirmer qu'en finalité, toute gloire revenait au Père. Verset 28 toujours, Père, glorifie ton nom. Tel est le but du ministère du Seigneur, de glorifier son Père dans ses actes et dans ses paroles. Mais voyons que Dieu répond immédiatement à son Fils. Comme lors de son baptême au Jourdain, quand il avait été baptisé par Jean-Baptiste, Dieu répond à cette obéissance. Et là, pour le verset 28, il dit, « Il vient une voix du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai de nouveau. » Il annonce que l'œuvre de Jésus allait encore le glorifier. Ainsi, le Fils veut la gloire du Père, et le Père va encore glorifier son Fils. Alors j'ai été stupéfait de cette unité, peut-être encore une fois, peut-être de cette unité. Et cette idée est venue parce que j'ai lu plusieurs fois le Jean 17 cette semaine, et j'ai renouvelé cette lecture plusieurs fois, tellement ce chapitre est splendide dans cette unité entre le Père et le Fils. Le meilleur texte qui nous parle de ce partage donc, de la gloire, c'est Jean 17. Et je vais vous lire les 5 premiers versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton nom afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est vraiment une unité parfaite. Ça dégage un amour parfait pour entre eux, mais surtout aussi pour nous, dans la suite du chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que nous sommes au bénéfice de cet accord parfait, de cette relation sans ombre. Et tout cela, c'était pour que ce plan se réalise et que nous soyons sauvés en croyant à ce sacrifice de Jésus-Christ que le Père a voulu. Et pour finir, je vous donne un refrain chanté avec force lors des obstacles de notre tente cette semaine. C'était un petit refrain que nous connaissons bien et qui peut nous aider aussi à la louange, à la reconnaissance. Et il est resté toute la semaine dans ma tête. Alors on pourra peut-être le chanter si tu connais la musique, mais je vais déjà vous le lire. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste comme un océan, profond plus que les mers, haut, plus haut que l'azur des cieux, est son amour.
Vous l'avez remarqué, les anciens disent régulièrement à ceux qui sont là qu'il est regrettable que certains ne soient pas là. Eh bien moi, j'ai une autre question pour vous qui êtes là, c'est pourquoi est-ce que vous êtes là ? Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Est-ce que, comme l'a dit Alain la semaine dernière, vous êtes là par habitude ? Est-ce que vous êtes là parce que cela rythme votre semaine et qu'il faut marquer la semaine par le dimanche où on va au culte ? Est-ce que vous êtes là pour voir vos amis ? Pourquoi êtes-vous là ? Ou est-ce que simplement c'est parce que les anciens le recommandent ? Pourquoi êtes-vous venu ? Est-ce que vous êtes venu pour assister au culte ? J'espère que non. Est-ce que vous êtes venu pour participer au culte ? J'espère que non. Est-ce que vous êtes venu pour rendre un culte ? J'espère que oui. Alors ça peut paraître être juste un détail de vocabulaire, mais c'est bien plus profond que ça. Plus globalement, est-ce que, comme l'a dit Pascal la semaine dernière, votre vie chrétienne est une coquille vide ? Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va lire deux versets dans l'Évangile. On va voir ce que nous dit Jean, c'est le chapitre que nous avons déjà ouvert tout à l'heure, Jean 12. Vous connaissez tous le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Eh bien, il y a un détail, mais vraiment un détail, que nous indique Jean, une précision intéressante et que ne nous donnent pas les autres. Jean 12. Versets 12 et 13. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Quelle est cette précision que donne Jean ? Est-ce que les gens sont venus à Jérusalem pour acclamer Jésus ? Non. Les gens sont venus à Jérusalem pour la fête de Pâques. La venue de Jésus à Jérusalem, ça n'est que la cerise sur le gâteau. Ils sont venus pour Pâques. La Pâque juive, pas la Pâque chrétienne. Ils ne sont pas venus à Jérusalem pour Jésus. Ça n'est que la cerise sur le gâteau. Alors pourquoi êtes-vous là ? Est-ce que rendre un culte à Dieu, c'est juste la cerise sur le gâteau. Pourquoi êtes-vous là ? Est-ce que ce sont pour les raisons qui sont exprimées dans Acte 2, 42 que nous lisons si souvent ? Et j'espère pas par habitude. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, ce n'est pas la première fois, mais on va les reprendre un par un. L'enseignement des apôtres. Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de l'enseignement qui a été donné dimanche dernier ? Et le dimanche précédent ? Bon, ça fait peut-être un peu loin pour certains. Alors, on va faire plus simple. Est-ce que vous vous souvenez de l'enseignement de l'étude biblique d'avant-hier ? C'est facile. Alain nous l'a rappelé tout à l'heure. Il était question de l'inquiétude. Allez, on va faire encore plus simple. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Alain nous a dit il y a quelques minutes pour la scène ? Jacques nous parle de cela. Voilà ce que nous dit Jacques, chapitre 1, les versets 23 et 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alors je vous le demande encore, pourquoi êtes-vous là ? Il y a la communion fraternelle. Et là, l'exemple que j'aime donner face à la communion fraternelle, c'est l'exemple des salutations des épîtres de Paul. Il connaît les gens à qui il écrit. Il sait quelles sont leurs difficultés. Il les connaît un à un. Il les salue un à un. Il leur demande de leurs nouvelles. Il les a à cœur. Est-ce que vous êtes venus pour la communion fraternelle avec les frères et les sœurs de l'Assemblée ? Dans une assemblée que je ne connaissais pas, j'ai vu une dame se précipiter vers une autre dame dès qu'elle est arrivée et lui demander de ses nouvelles et l'entourer de son affection, très visiblement celle qui venait d'entrer avait quelques difficultés et celle qui était déjà là et qui s'est précipitée vers elle l'avait à cœur et l'a assurée de son soutien fraternel et de ses prières. Son affection était palpable. Alors on a déjà entendu parler plusieurs fois du « bonjour, ça va ?» et puis on détourne la tête sans même écouter la réponse. Est-ce que vous êtes venu pour la communion fraternelle ? Alors, juste une précision, ne vous dites pas « oh, il a raison, personne ne vient vers moi ». C'est pas ça la question qu'il faut se poser. La question est plutôt, vers qui est-ce que je ne suis pas allé depuis longtemps ? Je vais aller prendre de ces nouvelles. Pourquoi êtes-vous là ? On parle de la fraction du pain, on en parle chaque dimanche. La semaine dernière, Alain nous a parlé de prendre la scène par habitude. Est-ce que nous percevons bien ? La sainteté de ce moment. Je vais peut-être vous choquer, mais la réponse est forcément non. Car la sainteté de ce moment de scène est si grande que nous n'avons pas la capacité de le percevoir. Alors, je vais poser une autre question. Est-ce que nous participons à ce moment de scène aussi pleinement que nous en sommes capables ? Et là, j'espère que chacun pourra répondre pour lui-même oui. Pourquoi êtes-vous là ? Les prières, peut-être ? Nous avons un grand privilège. Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous avons à notre portée ? Est-ce que vous vous rendez compte que ceci est accessible individuellement, mais aussi accessible avec le soutien de l'Assemblée. Alors, pas seulement pour étaler nos besoins, et malheureusement aussi souvent nos désirs. Est-ce que, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, nos prières sont aussi là pour rendre gloire à Dieu ? Pas seulement pour ce qu'il fait de bien pour nous, mais pour qui il est. Parce qu'il peut dire « je suis » et ça suffit. Est-ce que nos prières sont comme Jésus nous l'a enseigné ? Il nous a dit comment nous devions prier. Et puis nous avions aussi d'autres exemples. Il y a quelque temps, nous avons vu l'exemple de la prière de Néhémie. Est-ce que nous suivons cet exemple ? Allez, un autre exemple, je vais vous en donner à nouveau. Psaume 86, je vous lis tout le psaume. Psaume 86. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Dans cette prière, David tisse ses demandes avec sa louange. Les deux sont indissociables. Les demandes sans louange, elles sont sans fondement. Quel sens y aurait-il à demander à quelqu'un qui ne serait ni bon, ni puissant, ou pas bon et puissant ? Pourquoi êtes-vous là ? Alors je conclurai en disant que l'Ecclésiaste disait « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Et j'espère que vous vous dites la même chose. Vous souvenez-vous que ce que je vous dis aujourd'hui, nous l'avons déjà entendu. Plusieurs fois. Il m'arrive quelquefois de me demander s'il est utile de parler, si personne n'écoute, ni ne met en pratique. Et je me souviens alors de la responsabilité de chacun. Celui qui doit parler à la sienne, et celui qui doit écouter et mettre en pratique à la sienne. Pourquoi êtes-vous là ? Il se peut que vous soyez venu pour de mauvaises raisons. Mais le Seigneur a la bonté de nous bénir quand même. Ce n'est pourtant pas une raison pour persévérer. Alors pourquoi êtes-vous là ? Il y a un mot que je n'ai pas dit pour l'instant et qui doit être la bonne raison pour être là. Êtes-vous là par amour ? Prions. Seigneur, nous nous plaçons devant toi et nous voulons te dire que c'est par amour que nous voulons être devant toi. Nous te demandons pardon si d'autres choses peuvent venir perturber, mais nous sommes là pour toi, pour ton amour et parce que nous t'aimons, pour te rendre gloire parce que tu es toi seul digne de cette gloire. Amen.
On a un privilège extraordinaire. C'est que le Seigneur nous dit souvent la même chose et on a toujours l'impression, et ce n'est pas une impression, c'est toujours nouveau. Et il nous pose toujours cette question depuis plusieurs semaines, m'aimes-tu ? Tout est là.
Notre Dieu, notre Père, par la bouche de notre frère, les paroles que tu lui as mises sur le cœur, tu nous invites à rentrer en nous-mêmes afin de faire l'état des lieux, si je puis dire, de notre vie avec toi et devant toi. Tu as sondé nos cœurs ce matin et nous te demandons pardon si nous avons manqué, si nous nous sommes détournés. C'est encore le moment de revenir à toi. Que nous ne soyons pas confus quand nous arriverons devant toi. Tu nous as enseigné, tu nous enseignes. Et fais-nous la grâce de garder cette parole. Amen.